Bonjour Philippe, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien, toi?
Ça va super, merci. On va parler de trois avancées, mais vraiment spectaculaires. La première, c'est pour le cancer.
Effectivement, donc le cancer vient des signatures moléculaires pour le
Oui.
caractériser, mais ce qui est particulier, entre autres, c'est que les cellules cancéreuses ont bien souvent un nombre de chromosomes beaucoup trop élevé, en fait, anormal.
D'accord.
Dans la cellule. Petite parenthèse 101 ici, là, une cellule humaine, là, en bonne santé, là, ça contient 46 chromosomes.
D'accord.
À l'exception des les cellules reproductives, là, on parle ici des l'ovule et les spermatozoïdes, mais sinon, toutes les cellules ont 46 chromosomes.
D'accord. Et les
Donc,
cellules cancéreuses, elles, en ont un nombre anormal.
exactement, un nombre anormal qui est plus élevé. On dit de ces cellules-là qu'elles sont aneuploïdes. Donc, ça, c'est
Oh.
le terme scientifique pour dire,
Aneuploïde.
et voilà, exactement. Jusqu'à présent, il y avait un certain consensus sur le fait que ce nombre-là élevé était perçu comme une conséquence du cancer. Donc, c'est un événement qui découle du cancer.
Oui, d'accord.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs qui amènent une nouvelle perspective par rapport à ça en émettant plutôt l'idée que ce serait peut-être plutôt une cause de la
Oh!
progression du cancer. Donc, on
D'accord.
change vraiment
Ben
de façon de voir
on
les
met le
choses.
raisonnement, comme on dit, on met le raisonnement à l'envers. Donc,
Oui.
c'est pas une finalité, le fait qu'il y ait des chromosomes supplémentaires dans les cellules cancéreuses. Ce serait plutôt une des raisons qui amènerait le cancer ou les cellules cancéreuses à avoir un comportement rebelle, hein, de se
Et voilà,
reproduire continuellement
exactement.
et de ne jamais mourir.
Exactement, tout à fait. Bon, ils l'ont vu entre autres par le biais d'un gène, là. Ils ont étudié un gène en particulier, un gène qui est impliqué dans le cancer habituellement, le gène UCK2.
Oui.
En temps normal, c'est un gène qui a un rôle important à jouer. C'est une enzyme qui aide à la fabrication de l'ADN et aussi de l'ARN. Donc, c'est tout à fait normal.
C'est
Mais dans le cas
assez central dans une situation de croissance,
cancer,
mais
absolument.
évidemment, on ne s'attarde pas à la raison pourquoi les cellules ont trop de chromosomes, mais on sait
Oui.
qu'en ayant trop de chromosomes, ça les rend cancéreuses.
Exactement, c'est ça.
OK.
Et donc, eux ont utilisé une méthode de pointe là, pour évaluer si on élimine ce gène-là, est-ce qu'on va diminuer le nombre de cellules qui ont trop de chromosomes? Et leur recherche, essentiellement, c'est ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est qu'en agissant de cette manière-là, en éliminant ce gène-là dont j'ai parlé, le UCK2, ben, après un certain nombre de jours, avec des cellules cultivées en laboratoire, ils se sont rendus compte que le nombre de cellules cancéreuses anormales avec le nombre de chromosomes, ben, il diminuait de manière très drastique. On se retrouvait avec une très faible quantité de cellules cancéreuses.
Quand on parle de ces gens-là, on va leur rendre tout le mérite qui leur
Oui.
revient. C'est l'université Yale
Tout à fait,
qui
exactement.
c'est là que ces recherches ont lieu. Et donc le UCK2 qui est en quantité anormale, ce gène-là, il y en a trop dans les cellules cancéreuses. Puis en l'enlevant, la capacité des cellules à se reproduire de façon, je dirais, débridée, hein,
Oui,
un peu folle.
tout à fait.
Ben ça c'est sapé.
Absolument. Donc, c'est ça. On se retrouve avec beaucoup moins de cellules avec des chromosomes en quantité anormalement supérieure. Ce sont des résultats qui ont été faits en laboratoire sur des cellules cultivées. Alors, c'est important de le mentionner parce que ce n'est pas encore à l'étape où ça a été validé chez les animaux, comme la
D'accord.
souris et évidemment l'humain. Donc, c'est le début, mais c'est un début qui est très prometteur en termes de stratégie pour lutter contre la progression des tumeurs et des cancers. Fait que
Parce que
c'est porteur d'espoir.
essentiellement, les cellules cancéreuses ont trop de chromosomes et quand on leur en enlève, elles ne sont plus cancéreuses. Alors,
Ben, c'est ça, on les élimine. On élimine ces cellules-là. Voilà.
oui, ouf. Bon, ben, on a hâte que les souris mettent l'épaule à la roue. Hein?
C'est ça, prochaine étape, tout à fait,
Voilà.
c'est ça. Exact.
Les gens qui souffrent de diabète, surtout de diabète type 1, sont condamnés pour le reste de leur jour à avoir des injections d'insuline quotidiennes.
Absolument, c'est ce qui arrive normalement. Les gens vont devoir prendre des injections d'insuline. Parce qu'il faut le dire, les gens qui sont atteints du diabète de type 1, ben, ce sont des personnes dont les cellules qui normalement produisent de l'insuline, donc des cellules qu'on trouve dans le pancréas, ben, ces cellules-là sont détruites par leur propre système immunitaire. Donc, c'est leur système qui joue un peu contre eux en détruisant ces cellules-là qui normalement produisent de l'insuline. Et il faut le dire, hein, l'insuline, c'est important, c'est une hormone qui est essentielle pour faire en sorte que le sucre qui circule dans la circulation sanguine, là, que ce sucre-là puisse être intégré dans les cellules.
Faire passer le sucre du sang à l'intérieur des membranes cellulaires pour que les cellules puissent s'en nourrir. Et donc, là, on peut imaginer ce que ça a comme conséquence.
Absolument.
Puis les gens qui ont du diabète le savent. Le diabète de type 2, dont on entend plus souvent parler, c'est quelque chose qui est acquis plus tard dans la vie. Souvent à suite, parfois, à des habitudes de vie qui n'étaient pas gagnantes. Parfois, parce qu'il y a des prédispositions génétiques. Mais le type 1, c'est quelque chose avec lequel on commence dès la naissance.
Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on l'appelle, on l'a appelé très longtemps le diabète juvénile, là, parce qu'il est là très tôt, voire la naissance, là, justement. C'est un problème qui arrive très tôt. Et comme tu l'as mentionné, ces gens-là vont devoir se rabattre sur des injections d'insuline. Il y a des méthodes un peu plus avancées là, qui parlent de greffe de cellules souches ou de cellules qui produisent de l'insuline. Là, on greffe ça au niveau du pancréas, mais on voit très vite le problème qui se pointe, c'est-à-dire qu'il y a souvent le problème du rejet. Et les personnes doivent prendre des médicaments pour justement calmer le système immunitaire, pour éviter que le système s'en prenne à ces cellules-là.
À ces cellules ou greffons, parce que ça, c'est le propre de toutes les greffes, là, le problème du rejet. Alors, au Massachusetts Institute of Technology, mais MIT, près de Boston, on a peut-être trouvé une solution.
Absolument, ça c'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont été capables de mettre au point. Donc, essentiellement, c'est un petit appareil, une petite capsule qu'on va implanter chez les personnes, qu'on va éventuellement faire implanter. Mais ces capsules-là vont contenir des cellules bêta. Donc, les cellules qui produisent, de l'insuline.
D'accord.
Mais ce qui est vraiment fantastique avec ça, c'est qu'ils ont les capsules ont aussi leur propre système de production d'oxygène, parce que le nerf de la guerre, il est là. Il faut bien implanter des cellules, mais ces cellules-là ont besoin. Il faut qu'elles survivent. Et ça leur prend donc un moyen pour pouvoir s'approvisionner en oxygène. Et là, tout l'aspect vraiment incroyable de cette innovation-là, c'est dans le fait que ce petit appareil-là a une membrane. Et, le rôle de cette membrane-là, c'est d'être capable de séparer les molécules d'eau en leur constituant les plus simples. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, c'est quoi?
C'est H2O.
Hydrogène. H2O, on connaît bien, hein, hydrogène et oxygène. Donc, la membrane va les séparer pour faire en sorte que l'oxygène puisse entrer dans la capsule. Hein, les cellules qui sont dans la capsule en ont besoin. Quant à l'hydrogène, il n'y a pas de souci. Là. Ça se diffuse
il va se diffuser dans le corps. D'accord.
Il n'y a aucun problème avec ça. Et bien, en retour, si les cellules sont en mesure de recevoir de l'oxygène, elles vont pouvoir bien fonctionner et vont pouvoir produire de l'insuline.
Alors, ces cellules-là qui ont été implantées dans la capsule vont devenir des injections permanentes. Ça va être des dispensateurs.
Voilà.
Les capsules seront dispensatrices d'insuline aussi loin que ça peut porter. Est-ce qu'il faut une source d'énergie pour faire fonctionner tout
c'est
ça?
C'est là où ça ne s'arrête pas comme innovation. C'est-à-dire que la capsule a besoin d'une petite quantité d'énergie électrique pour fonctionner. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on y va ici par une approche qui est basée sur l'induction électromagnétique. Pour arriver dans la vie de tous les jours, là, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les fours à induction électromagnétique.
Ah oui.
Là,
on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Ça, puis les trains au Japon. Okay.
Oui, tout à fait. Donc, le principe est le suivant, c'est-à-dire grâce à un champ magnétique, on est capable d'induire un courant électrique. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que la personne pourrait porter une petite patch à la surface de la peau, qui est en fait une petite bobine. Et puis ça, ça va induire un courant électrique dans la capsule au niveau de l'implant.
D'accord.
Et ça fournira la quantité, les quelques volts nécessaires pour fonctionner.
Pour qu'à ce moment-là, la capsule puisse séparer l'oxygène et de l'hydrogène à cause de toute l'eau qui est présente dans le corps. Ça va permettre aux cellules bêta dans la capsule de survivre et de travailler à produire de l'insuline. L'insuline qui va permettre à la personne qui a un diabète de type 1 de survivre. Ouf!
Voilà, c'est super bien résumé.
Alors, on devient une petite centrale électrique qui produit de l'hydrogène, mais il ne faut pas s'alarmer, hein? C'est pour une bonne cause.
Et voilà, exactement. Présentement, c'est fait chez la souris. Là, ils ont tout testé.
D'accord.
Ça a été avec succès chez la souris.
L'étape...
Et il faut juste penser à le valider chez l'humain éventuellement.
L'étape souris est franchie.
Voilà, exactement, tout à fait. Donc, on passe à l'étape suivante qui va être tester ça chez les humains. Ça vient, les prochaines années.
OK, bien ça, c'est la prochaine nouvelle aussi, c'est impressionnant, là.
Ah, ça, c'est pour moi, on dirait que ça sort directement d'un film de science-fiction, là. C'est vraiment complètement flyé. C'est-à-dire que des chercheurs américains ont mis au point des implants cérébraux, des implants, donc on implante au niveau du cerveau, et tout ça, évidemment, couplé à un système d'intelligence artificielle. Ben, ce que ça permet, là, c'est que pour des personnes qui sont muettes, en fait, des personnes qui ont eu des événements autour de leur vie, accident ou maladie, qui ont fait en sorte qu'ils ont perdu la voix, ils sont devenus muettes. Donc, ces personnes-là peuvent retrouver une certaine capacité à s'exprimer oralement, mais attention, les électrodes vont détecter des signaux cérébraux. L'intelligence artificielle va les analyser, et puis là, ça va projeter sur l'écran des mots. Donc, les mots auxquels la personne pense. Oui, tout à fait. Donc, c'est là où vraiment on arrive à quelque chose assez flyé. Merci.
C'est comme la visualisation du mot, de l'action, exact, ou du concept. Le cerveau est prêt à former un mot qui devrait normalement être prononcé par les cordes vocales, la bouche, la langue.
Exact.
Et au lieu de ça, ben, on fait... L'intelligence artificielle interprète cet influx électrique dans le cerveau et dit, ben voici le mot auquel vous pensez.
C'est à peu près ça, on peut dire. Puis évidemment, il y a une synthèse vocale avec tout ce système-là, donc là, les mots peuvent être lus, dictés à voix haute. Et donc, ça a été démontré chez une patiente là, qui souffre de la sclérose latérale amyotrophique, donc une maladie qui dégénérescence des muscles, puis elle a perdu la parole. Et grâce à ça, ben, elle peut prononcer jusqu'à 60 mots par minute. Hein, c'est quand même assez
surprenant. C'est pas mauvais du tout, 60 mots par minute. Là, c'est un peu lent, mais c'est certainement suffisant.
Oui, ben, considérant qu'une personne en donne 160 en général, qui parle normalement, ben, on est déjà...
C'est déjà pas mal. Ça, c'est à l'Université Stanford. Alors aujourd'hui, Yale, Massachusetts Institute of Technology et Stanford, là, et... Je veux dire qu'ils nous éblouissent. Parfois, on a d'excellentes recherches qui sont faites dans notre cours ici, au Canada, au Québec, à Montréal. Mais là, on va leur un petit coup de chapeau à ces universités américaines, à la fois dans le cancer, le diabète et en fait même l'interprétation des signaux électriques dans le cerveau. Parce que l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle fait pour savoir que tel signal, c'est tel mot? Il doit y avoir comme un aspect répétitif qui...
Il y a certainement une période d'entraînement, je pense que c'est ça comme ça, là, où l'intelligence doit un peu faire la compréhension de ces signaux-là, mais c'est de voir qu'au final, on y arrive. On arrive à quelque chose qui est la personne peut s'exprimer à nouveau, ce qui n'était plus possible.
Bon, ben là, écoute, Philippe, on va... on est en voiture pour le reste de la journée à penser à toutes les applications. Puis évidemment, on a hâte que toutes ces recherches passent les différentes étapes et s'avèrent, je dirais, adéquates pour tous les humains, puis que ça devienne en version vendue en ligne, hein, puis qu'on puisse faire venir ça à la maison. Voilà.
Ben oui, c'est ça.
Ben, merci beaucoup, exactement. Philippe. C'est formidable. C'est des messages d'espoir.
Ben, tout à fait.